Chapitre 13. Pour Didi, la matinée du dimanche commença par un coup de fil. Elle entrait dans son bureau. Pas de repos pour les braves, ni pour une superviseuse de la criminelle à qui venait d'échoir une grosse affaire. Et jonglait entre son café dans une main et sa besace en cuir dans l'autre. Elle arriva tout juste à poser son gobelet à temps pour décrocher. Commandant Didi Warren.
Est-ce que c'est vrai? C'est cet homme qui a enlevé ma fille? Vous savez ce qui lui est arrivé? Pour l'amour de Dieu, pourquoi faut-il que nous apprenions tout cela par la presse? Comment pouvez-vous être de tels monstres d'insensibilité?
Didi prit son temps. Elle ne reconnaissait pas la voix, mais le degré d'anxiété lui laissait penser qu'elle était en communication avec le père de Stacy Summers. Étant donné la volée de bois vert que la police de Boston avait reçue dans les journaux de la veille, un individu qu'on soupçonnait d'avoir enlevé une étudiante avait été retrouvé sans vie et la police refusait de commenter les circonstances du décès, ça ne l'aurait pas étonné. Mais par précaution. Monsieur, à qui ai-je l'honneur?
Colin Summers, à votre avis.
Je suis navrée, mais je me dois de poser la question. Comme vous avez certainement appris à le savoir, les journalistes ne sont pas à un stratagème prêt pour obtenir des informations de première main. Soupir exaspéré au bout du fil. Celui d'un homme qui s'efforçait de reprendre le contrôle de lui-même. Didi profita de ce répit pour poser sa besace, tirer sa chaise et s'asseoir à son bureau.
« C'est vrai ?»
répéta finalement Colin Summers dans un souffle. Alors qu'il est, aucun élément ne permet d'établir un lien entre Devon Golding et la disparition de votre fille.
« Épargnez-moi la langue de bois. C'est de ma fille qu'on parle. Dites-moi juste la vérité. »
Monsieur, je me suis personnellement rendue sur la scène du crime. Voilà plus de 24 heures que nous fouillons la maison des Golding de fond en comble. Je vous dis la vérité, nous n'avons rien retrouvé qui permette d'établir un lien avec votre fille.
Mais aux infos, ils disent que c'était un type costaud, comme sur la vidéo.
C'est vrai.
Et qu'il était barman. C'est peut-être ça le lien. La dernière fois qu'on a vu Stacy, c'était au Birchies. Il y a peut-être travaillé.
Nous avons vérifié. Devon Golding n'a jamais été employé au Birchies.
Mais si Stacy l'avait rencontré dans le bar où il travaillait, peut-être qu'il l'a repéré et qu'elle lui a tapé dans l'œil. Ça se passe parfois comme ça, non? Un regard sur elle et elle est devenue sa cible.
Didi hésita. Les relations avec les familles plongées dans la douleur étaient ce qu'elle appréciait le moins dans son métier. Il était tentant de répondre à toutes leurs questions, d'apaiser, d'expliquer. Mais la vérité, c'était qu'elle se devait en priorité non pas à Colin Summers et son épouse, mais à Stacy. Or, dans une enquête, il importait tout autant de savoir garder pour soi certains détails cruciaux que d'en découvrir de nouveaux. Elle ne pouvait pas prendre le risque de dire à M. Summers tout ce qu'il savait sur Devon Golding. On avait trop souvent vu un père éplorer partager de précieuses informations avec son épouse ou avec son meilleur ami, lesquels fatalement les avaient partagés avec une autre personne, puis une autre, si bien qu'avant que la police ait eu le temps de se retourner, tous les éléments du dossier qu'ils ne pouvaient pas se permettre de voir exposés au grand jour devenaient matière à reportage dans les journaux du soir. En général, les proches d'une personne disparue vous diront qu'ils feraient n'importe quoi pour aider à la retrouver. Malheureusement, et pour leur propre bien, les enquêteurs ont surtout besoin qu'ils restent le plus possible sur la retenue. Didi demanda « Est-ce que Stacy fréquentait le tonic bar ?»«
Je ne sais pas. Elle ne buvait pas beaucoup, et ce n'était pas une fêtarde. Cela dit, elle était sociable. »
concéda-t-il.
« Pour peu que ses amis aient voulu y aller, elle aura suivi. »
Didi hocha la tête. Cela concordait avec ce qu'ils avaient établi à ce stade. Au cours de l'après-midi de la veille, Phil s'était rendu sur le lieu de travail de Devon Golding. Le tonic, avec une photo de Stacy Summers. Plusieurs barmen avaient reconnu la fille dont parlaient les médias, mais aucun ne se rappelait l'avoir vue dans l'établissement. Bien sûr, on ne pouvait pas exclure pour autant que Devon Golding ait croisé son chemin là-bas ou dans un autre endroit. Boston n'était pas à court de lieu de rendez-vous pour les étudiants. On n'avait que l'embarras du choix. Par ailleurs, comme le montrait l'enlèvement de Flora Dane, on ne pouvait pas dire que Golding ne trouvait pas les blondes à son goût. « Vous connaissez Florence Dane ?» demanda-t-elle sans préambule. Un silence à l'autre bout de la ligne, qui se prolongea indéniablement quelques secondes de trop.
Pourquoi cette question ?
Finit par répondre Colin Summers. Est-ce qu'il est venu chez vous ? Vous l'avez rencontré ?
Nous avons rencontré sa mère.
Pardon ?
Quand votre enfant disparaît, il existe un programme dirigé par le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Un autre parent qui a aussi traversé cette épreuve vous appelle pour vous proposer son soutien. Rosa Dane a été choisie pour être notre mentor. Elle a appelé dès le premier jour et elle est restée au téléphone avec ma femme en pleurs.
L'avez-vous personnellement rencontrée ?
Elle est venue chez nous à plusieurs reprises. Elle nous a beaucoup apporté, commandant. Après ce qu'elle a vécu, elle comprend. Elle écoute et elle aide. On ne peut pas en dire autant de vous et de vos collègues.
Didi grimaça en entendant l'amertume de son interlocuteur. Se rappela qu'il ne fallait pas le prendre personnellement. Les Summers voulaient des réponses. Ils voulaient qu'on leur rende leur fille. Or, tout ce que les enquêteurs avaient eu pour eux jusqu'à présent, c'était au mieux de nouvelles questions et au pire, de nouveaux soupçons. « Et sa fille, Florence ?» insista Didi.
« Je connais bien son affaire, »
dit Colin Summers, répondant à côté de la question. « Elle a accompagné sa mère pendant l'une de ses visites ?» suggéra Didi.
« Non. »
Elle vous a contacté par téléphone, par email, via Facebook? Vous la connaissez, n'est-ce pas, Monsieur Summers? Vous avez personnellement discuté du cas de votre fille avec elle?
Non.
Mais Didi ne le croyait plus. Il y avait Anguille sous roche. Une information qu'il n'était pas encore prêt à révéler. Et là...
C'est elle qui l'a tuée?
Demanda-t-il. Qui ça?
Flora. Est-ce qu'elle a tué le barman? Le ravisseur présumé. Est-ce que c'est pour ça que vous me posez toutes ces questions ?
Didi ne répondit pas. Jusque-là, ils avaient réussi à éviter que le nom de Florence Dane apparaisse dans les médias. Essentiellement en n'engageant aucune poursuite contre elle afin que les journalistes trop zélés n'aient rien à découvrir. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, Monsieur Summers ?
Les enquêteurs ont leurs sources, les familles des victimes ont les leurs. Et vu l'empressement que vous mettez à nous communiquer les informations...
Nous sommes tous dans le même camp, Monsieur Summers. Nous faisons tous le maximum pour vous ramener votre fille.
Alors pourquoi n'est-elle pas à la maison ?
Un déclic dans l'oreille de Didi. Colin Summers venait de raccrocher, en s'arrangeant pour avoir le dernier mot. Didi resta un instant le combiné à la main, sonné par la colère de son interlocuteur. C'était vrai, quoi ? Pourquoi n'avait-il pas retrouvé Stacy au bout de 3 mois ? Et que savait Flora Dane sur l'enlèvement de cette étudiante qu'eux-mêmes semblaient ignorer ? 8h30. Didi avait des montagnes de rapports à décortiquer et à valiser, ceux des enquêteurs de nuit étant venus s'ajouter à la pile. Les joies du travail d'encadrement, la rançon de sa restriction d'aptitude. À l'époque où elle était enquêtrice de terrain, la nécessité de rendre compte de ses actions dans les moindres détails la faisait toujours râler. Et pourtant, ces rapports étaient importants. Il formait la base d'un dossier d'accusation susceptible d'être porté devant les tribunaux. Et quel était l'intérêt de démasquer des criminels et de les arrêter si on ne pouvait pas ensuite mettre ces salopards à l'ombre ? Le travail administratif était important. Rester assise derrière ce bureau était important. Mais poser les bonnes questions aussi. Qu'avait dit le docteur Keynes la veille ? Que Flora préférerait qu'on soit franc et direct avec elle. Didi se leva, reprit sa besace, attrapa son gobelet et ressortit de son bureau. L'adresse du domicile de Florence Dane se révéla être un bâtiment de 3 étages sans ascenseur, dans une rue où s'alignaient de vieux immeubles mitoyens un peu défraîchis. À cette heure-là, un dimanche matin, l'immeuble et la rue étaient calmes. Didi franchit la porte extérieure, qui n'était pas fermée à clé, et se retrouva dans un vestibule classique, avec une demi-douzaine de boîtes aux lettres. Certaines portaient des étiquettes avec les noms des locataires. Ce n'était pas le cas de celle de Flora, où ne figuraient que ses initiales, F.D. Encore une mesure de précaution de la part d'une femme qui ne prenait pas sa sécurité à la légère. La porte intérieure du vestibule était sécurisée, mais comme il arrive souvent dans les lieux de passage, elle n'avait pas été correctement tirée. Flora n'aurait certainement pas été contente de voir que Didi n'avait qu'à donner une petite poussée pour entrer. Elle aurait pu sonner à l'interphone. Ça aurait été plus poli, mais moins drôle. Non. Didi vit les escaliers droit devant elle et décida d'autorité de monter. Évidemment, elle ne s'attendait pas à avoir le souffle si court au bout de deux étages. Il fallait peut-être songer à réduire les séances de kiné pour les remplacer par des exercices d'endurance. Ni a trouvé la porte de Florence entrouverte. Elle hésita et sentit les poils de sa nuque se hérisser. À première vue, il n'y avait pas de quoi s'alarmer. La porte avait l'air en parfait état, pas de traces d'effraction sur les serrures, les montants étaient intacts. Et pourtant, elle frappa avec énergie à la porte. Celle-ci s'ouvrit en grand.
Flora Dane? Commandant Didi Warren?
Pas de réponse. Didi fit un premier pas et leva instinctivement la main à sa hanche avant de se rappeler qu'elle n'avait toujours pas l'autorisation de porter une arme.
Flora? Vous êtes là? Florence Dane?
Rien. Ni bruit de pas, ni bruit de douche, ni grincement de porte. Didi fit encore un pas, trouva la cuisine droit devant elle, le petit séjour à gauche et une autre porte qui laissait entrevoir une chambre. Les lampes étaient éteintes. Certes, la lumière entrait largement par les grands bow windows, mais comme le ciel était plombé, les recoins de l'appartement étaient encore plongés dans la pénombre, ce qui donnait au lieu un air d'abandon. Mais surtout, on sentait que l'appartement était vide. Pour une raison ou une autre, la porte avait été laissée ouverte et Florence n'était plus là. Cela n'avait strictement aucun sens. Une femme qui s'était fait une spécialité d'étudier le comportement criminel et qui aurait laissé son appartement ouvert à tout vent en plein Boston? Impossible. Il se tramait quelque chose. Mais quoi? Lentement, en restant dos au mur, Didi fit le tour de l'appartement. Mais il n'y avait pas grand-chose à voir, en fin de compte. La cuisine était impeccable, le modeste séjour parfaitement en ordre. Du bout du pied, elle repoussa la porte de la salle de bain et examina le lavabo sur colonne, les toilettes, la cabine de douche. Rien. Enfin, l'unique chambre. Là encore, elle poussa la porte du bout du pied en prenant soin de ne rien toucher et découvrit un lit double, dont la couette était repoussée et dans lequel on avait manifestement dormi. À son chevet, une seule table de nuit avec une lampe et un iPhone en train de se charger. Cette vision arrêta Didi. Qui, de nos jours, sort de chez lui, même pour une brève course, sans prendre son téléphone? Puis, Didi vit un vieux bureau bancal sur lequel trônait un portable Mac dernier cri. Enfin, elle se laissa aller à regarder ce qui constituait le clou du spectacle. Les dizaines de coupures de presse et de photographies qui tapissaient les quatre murs de la chambre. Il ne lui fallut guère de temps pour trouver le thème commun. Des affaires de disparition. Toutes jusqu'à la dernière. 30, 40, 50 personnes, hommes et femmes, qui étaient sortis de chez elles un beau jour et qu'on n'avait plus jamais revus. Y compris Stacy Summers, dont le Boston Globe annonçait le kidnapping dans un article exposé à la place d'honneur, juste au-dessus du lit de Flora. Aucun doute, elle avait suivi l'affaire. Et maintenant? Didi fit un tour complet sur elle-même pour prendre la mesure de l'obsession qui hantait Flora. Et elle fut soudain saisie d'un très mauvais pressentiment.